Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique édition du lundi 14 février 2022, en direct de Washington, Idrissa Sebudia
et Jacques Aristide.
Nous commençons par les titres.
Deux soldats maliens ont été tués dans une attaque djihadiste dans le nord de leur pays.
Les rebelles de Casamance promettent de libérer aujourd'hui 7 soldats sénégalais faits prisonniers fin janvier.
En Afrique du Sud, la police tire des balles en caoutchouc sur des manifestants protestant contre les travailleurs migrants.
Protestation également en Tunisie où le président Kais Saied étend son pouvoir sur le système judiciaire.
Les États-Unis ont répété dimanche que l'Ukraine pourrait être envahie à tout moment par la Russie qui continue de démentir.
Au Canada, la police dégage l'accès à un pont stratégique entre ce pays et les États-Unis, bloqué depuis lundi par des manifestants antisanitaires.
Et ne ratez pas notre page sport avec Élisée Oumpati.
Pour l'instant, le journal.
Deux soldats maliens ont été tués tôt dimanche dans le nord du Mali lors d'une attaque de djihadistes contre le poste de Niafonké, a annoncé l'armée sur les réseaux sociaux, ajoutant que 5 assaillants ont été également tués. Les djihadistes ont causé depuis 2012 la mort de centaines de membres des forces de sécurité nationale au Mali et chez ses voisins burkinabés et nigériens auxquels ils ont étendu leurs agissements.
Les rebelles de Casamance, région du sud du Sénégal, théâtre d'un vieux conflit indépendantiste, libéreront ce lundi 7 soldats sénégalais faits prisonniers fin janvier, a dit sous couvert d'anonymat un responsable du MDSC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Ces soldats sont membres de l'ECOMIG, la mission ouest-africaine en Gambie. Ils seront remis aux représentants de la CDAO, l'organisation qui a institué l'ECOMIG.
Le MDFC a capturé les 7 soldats sénégalais au cours d'un affrontement qui, le 24 janvier dernier, a coûté la vie à 4 soldats sénégalais, selon l'armée sénégalaise. Elle avait indiqué que l'accrochage avait eu lieu au cours d'une opération contre le trafic de bois sur la frange frontalière avec la Gambie. Cet affrontement est l'un des événements les plus graves des dernières années dans le conflit casamancé.
En Afrique du Sud, la police a dispersé hier une manifestation contre les travailleurs migrants. Elle a indiqué avoir tiré des balles en caoutchouc et fait usage de grenades assourdissantes contre un groupe d'environ 200 personnes à Johannesburg. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon la police, il n'y a pas eu d'affrontement et aucun blessé n'a été signalé. Les manifestants rassemblés dans un parc depuis le milieu de la matinée ont tenté de forcer un cordon de police, faisant monter la tension. Ils se sont ensuite rendus devant un supermarché pour exiger que les responsables du magasin n'emploient plus de travailleurs étrangers. Un autre rassemblement a eu lieu au même moment dans le township d'Alexandra, dans le nord de Johannesburg. Une centaine de manifestants anti-immigration ont démonté plusieurs commerces informels tenus par des étrangers. La veille samedi, la police avait fait usage de canons à eau pour disperser des manifestants qui réclamaient, dans un quartier déshérité de la capitale économique, le départ des travailleurs migrants. Première économie industrialisée du continent, l'Afrique du Sud attire les migrants de la région. L'Agence gouvernementale des statistiques estime à 3 950 000 le nombre d'étrangers dans le pays, dont des réfugiés politiques, des migrants et des travailleurs expatriés qualifiés. Mais le pays, qui a durci ses réglementations en matière de visa au cours des dernières années, fait face à un chômage endémique qui se situe à près de 35%, environ 65% chez les jeunes.
Dans l'actualité également, au Soudan, Mohamed Al-Feki, un ancien dirigeant civil limogé lors du putsch militaire d'octobre dernier, a été de nouveau arrêté dimanche, a indiqué un cadre de son parti, dans un pays où des dizaines de militants et d'hommes politiques pro-démocratie ont été détenus. M. Feki et l'ancien chef de cabinet du gouvernement civil, Khalid Omer Youssef, arrêté de nouveau mercredi en pleine réunion de pro-civil, faisait partie de la commission chargée de récupérer les biens spoliés par le régime déchu d'Omar El-Béchir.
Cet organe est particulièrement visé par le nouveau pouvoir militaire que les militants pro-démocratie accusent de chercher à réinstaller l'appareil sécuritaire et politique du régime du président déchu Omar El-Béchir. Le général Abdel Fattah al-Burhan, auteur du putsch du 25 octobre, dit qu'il s'agissait là de décisions de justice indépendante.
Des milliers de Tunisiens sont descendus dans la rue hier pour protester contre une nouvelle décision du président Kais Saied, lui permettant d'étendre son pouvoir sur le système judiciaire. Il a annoncé avoir remplacé le Conseil supérieur de la magistrature, qu'il a dissous il y a une semaine, par un autre organe temporaire. Le point avec Lionel Gaïma.
Quelques heures après cette annonce, plus de 2000 manifestants se sont rassemblés à Tunis en signe de protestation et pour exprimer leurs craintes quant à l'indépendance du système judiciaire. « Le peuple veut ce que tu ne veux pas » ont scandé des protestataires en référence au slogan phare de la révolution de 2011 qui a renversé le président Zine El Abidine Ben Ali. Sur des pancartes, on pouvait lire « Sauvez notre démocratie » ou encore « Ne touchez pas à la justice ». Le décret instituant un nouveau conseil supérieur temporaire de la magistrature, en partie nommé par le président, donne également à M. Saïd le pouvoir de révoquer tout juge qui manque à ses devoirs professionnels. De plus, il est interdit aux magistrats de tout grade de faire grève ou de tenir toute action collective organisée qui pourrait perturber ou retarder le fonctionnement normal des tribunaux. Depuis le 25 juillet 2021, M. Saïd, soutenu par l'armée et les services de sécurité, a pris des mesures renforçant son pouvoir, faisant craindre à ses détracteurs un retour à un pouvoir autoritaire.
En Libye, l'émissaire de l'ONU, Stephanie Williams, a rencontré les deux dirigeants rivaux, les appelant à préserver la stabilité sans prendre position. Le pays est miné par les luttes de pouvoir et les divisions. Deux premiers ministres siègent dans la capitale Tripoli. Le Parlement a en effet désigné le 10 février dernier Fatih Bachaga pour remplacer à la tête du gouvernement Abdelhamid Dbeiba, qui a refusé jusqu'ici de céder le pouvoir.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le cahier international, le président américain Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont eu un nouvel entretien téléphonique hier. Ils ont convenu de poursuivre la diplomatie et la dissuasion face à la Russie, a rapporté la Maison-Blanche. Le point avec Jean-Roger Billon.
Les deux dirigeants ont convenu de l'importance de poursuivre la diplomatie et la dissuasion en réponse au renforcement militaire russe aux frontières de l'Ukraine, selon le compte-rendu de l'exécutif américain. Lors de cet échange, Joe Biden a de nouveau promis une réponse rapide et résolue des États-Unis en coordination avec ses alliés en cas d'attaque russe et a réaffirmé son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Cet appel s'inscrit dans une phase d'activité diplomatique intense. Samedi, les dirigeants occidentaux et russes ont multiplié les appels téléphoniques pour tenter d'apaiser les tensions autour de l'Ukraine. Mais ces discussions semblent n'avoir produit que peu de résultats. L'entretien entre Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine samedi n'a pas donné de motif d'optimisme, a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby, dimanche. Les États-Unis, tout en martelant que la voie diplomatique restait ouverte concernant la Russie, répètent qu'une invasion de l'Ukraine pourrait être imminente, ce que dément toujours le Kremlin.
Et le chancelier allemand Olaf Scholz est attendu ce lundi à Kiev pour y poursuivre les efforts diplomatiques. Il se rendra ensuite à Moscou mardi sur les pas du président français Emmanuel Macron la semaine dernière.
Washington a salué l'intervention de la police canadienne qui a délogé dimanche les derniers manifestants qui bloquaient le pont Ambassadeur, axe frontalier névralgique entre le Canada et les États-Unis. Le maire de la ville de Windsor a annoncé la fin de la crise qui a coûté des milliards de dollars aux deux pays. Le point avec Eric Manirakidza.
Un important contingent de policiers s'est regroupé aux abords du pont en début de matinée dimanche. Et les forces de l'ordre ont procédé à des arrestations et remorqué des véhicules. La route menant au pont a été dégagée. Notre crise économique nationale au pont Ambassador a pris fin aujourd'hui. S'est réjoui le maire de Windsor, Drew Dilkins, faisant allusion au lourd coût financier du blocus qui durait depuis une semaine. Le passage transfrontalier sera rouvert quand il sera sûr de le faire, a-t-il ajouté, laissant à la police et aux services frontaliers la responsabilité de cette décision. L'opération a été lancée en vertu d'une décision de la Cour supérieure de l'Ontario qui avait ordonné vendredi le départ de ces manifestants installés depuis lundi sur cet axe frontalier majeur entre les deux voisins américains. La fermeture de ce pont a déjà entraîné des perturbations pour l'industrie automobile des deux côtés de la frontière. Plus de 25% des marchandises exportées entre les États-Unis et le Canada transitent par ce pont.
En revanche, quelques 1300 véhicules, selon la police, participant au convoi Antipas venu de toute la France, ont fait escale dimanche près de Lille, dans le Nord, avant un rassemblement lundi à Bruxelles. Les autorités belges ont rappelé dimanche aux participants des convois Antipas vaccinal qu'il était interdit de manifester lundi dans la capitale, tout en multipliant les avertissements en direction des habitants sur les difficultés d'accès aux hôpitaux et à l'aéroport. À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football, et c'est la reprise des interclubs de la CAF, ont disputé ce week-end la première journée des phases de groupe.
Oui, et en Ligue des Champions dans le groupe A tout d'abord. Bon départ pour les Mamelodi Sundowns, vainqueurs des Soudanais d'Al Hilal 1-0. L'autre club sud-africain d'Amazulu dans le groupe B s'est incliné sur le même score à Casablanca devant le Raja. Mauvais départ également des Guinéens de Oroya dans ce groupe, battu à domicile par les Algériens de l'Entente de Sétif.
L'Espérance de Tunis, de son côté, démarre fort.
Tout à fait. Les Sangs et Or ont réalisé le carton dans la poule C. 4-0 face aux Botswanais de Galassie. Pas de vainqueur dans l'autre match, 0-0 entre l'Étoile du Sahel et les Algériens de Bel Ouizdad. Et puis, Bel entame aussi des Marocains du Wydad de Casablanca, victorieux 3-0 des Angolais de Sagrada Esperanza, pendant que l'autre club angolais, le Petro Atlético de Luanda, est allé accrocher au quai. Les Égyptiens de Zamalek scorent 2 buts partout.
Première journée des phases de groupe également en Coupe de la CAF et le TP Mazembe a réussi son entrée.
Les Corbeaux ont réalisé le minimum 1-0 face aux Congolais de Brazzaville, Las Otoodo. Une réalisation de Richard Emmanuel Njo. L'entraîneur du club s'en contente et se dit satisfait de la prestation de ses joueurs. Franck Dumas au micro de notre correspondant à Kinshasa, Valdo Simoyamba.
On a joué la première mi-temps pour la gagner, on a joué la deuxième mi-temps pour ne pas la perdre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et alors qu'on avait quand même insisté à la mi-temps de continuer à exercer un pressing et haut. Et je crois que l'aspect humain a repris dessus. La peur d'eux ou la volonté de protéger quelque chose. Et c'est compliqué d'un point de vue stratégique. Maintenant, il n'y a pas eu de conséquences négatives.
Le club de Lubumbashi occupe la première place du groupe C devant les Égyptiens d'Al Masri et les Camerounais de Coton Sport de Garoua qui se sont neutralisés 0-0. Et puis, un seul match a eu lieu dans le groupe B avec la victoire 2-0 des Sud-Africains d'Orlando Pirates aux dépens des Algériens de la GS Aoura.
La suite des résultats de cette première journée.
Sacré en 2020, la Renaissance de Berkane logée dans la poule D a éprouvé plus de difficultés que prévu à domicile face aux Nigériens de l'US Gendarmerie Nationale. Un match qu'elle a fini par remporter sur le score de 5-3 et se place ainsi devant les Tanzaniens de Simba qui ont battu un peu plus tôt les Ivoiriens de l'ASEC d'Abidjan 3-1. Enfin, dans le groupe A, ce sont les Égyptiens de Pyramide et les Tunisiens du club sportif Sfaxien qui partagent la première place après leur victoire respective, 2-1 devant les Libyens d'Ali Tripoli et 1-0 face aux Zambiens de Zanaku. Et puis, du basketball pour finir, la NBA est avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Deux matchs au programme, probablement à cause de ce Sunday Super Bowl, le grand championnat du football américain. Boston et Atlanta 105 à 95, Minnesota et Indiana 129 à 120. Pour ce qui est du Super Bowl, il a été remporté par les Los Angeles Rams qui ont battu les Cincinnati Bengals 23 à 20.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En moins de 3 mois, le Bénin a connu plusieurs attaques meurtrières dans le nord de ce pays. Les attaques coordonnées ont eu lieu dans la région du parc naturel transfrontalier, près de la frontière avec le Burkina et le Niger. Une patrouille de Rangers, puis des membres des forces armées venues en renfort ont été visés. Des réactions de Béninois avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Depuis décembre 2021, les attaques terroristes présumées se sont multipliées contre les positions de l'armée béninoise déployée aux frontières avec le Burkina Faso et le Niger. Anoua Zayanji est un fonctionnaire.
C'est le moment de se lever, vraiment équiper l'armée. Quand un peuple est divisé, quand les fils d'une famille ne s'entendent pas, l'ennemi trouve rapidement d'affaires. Donc, je voudrais appeler chacun de nous à l'unité, parce que nous, il faut revoir encore notre devise, la fraternité. Nous devons tout faire, lutter pour la fraternité, la paix. Et on ne peut pas combattre le fléau du terrorisme en étant divisé.
Pour d'autres, le gouvernement a le devoir d'assurer la sécurité des populations. Jean Kenzo invite le gouvernement à outiller l'armée afin qu'elle soit apte à faire face aux menaces terroristes.
L'arrivée des djihadistes est en train de nous inquiéter un tout petit peu dans le pays. Donc, nous sommes dans un autre pays, la paix doit y régner. Je lui demande de renforcer beaucoup plus la base militaire pour que nous puissions vraiment continuer à vivre dans la paix.
Dans le nord du pays, non loin de la zone où ont eu lieu ces attaques, les populations vivent dans la peur. Pour eux, un conseil des ministres extraordinaire est insuffisant pour régler la question.
Même si l'armée devait être la grande miette, qu'on nous dise quand même, choisir les éléments qu'il faut, qu'on nous dise de quels moyens dispose, j'allais dire, le Bénin, pour combattre même les malfrats qui sont dans notre pays. Nous avons quoi, à quelle munition? Ce qu'on a présenté au 1er août là.
Le Bénin, à ma connaissance, n'est pas assez outillé pour aller chercher par là à ces criminels là. Nos frontières sont très poreuses. Nous n'avons ni les moyens humains de produire formation pointue de nos militaires, de produire moyens matériels, nous n'en avons pas. Et sans savoir que le Bénin, en termes de sécurité, nous faisons ce que nous pouvons pour sécuriser les nôtres sur le territoire.
Réuni en conseil extraordinaire des ministres, le gouvernement a tenté de rassurer les citoyens sur les stratégies mises en place. Pour Wilfried Léandrou Bédi, porte-parole du gouvernement, la question sécuritaire est essentielle et le gouvernement se donne les moyens de la résoudre.
Les échanges ont permis de mettre en exergue que la stratégie du gouvernement pour garantir la sécurité sur tout le territoire national suit son cours et s'intensifiera avec la réception prochaine des nouveaux équipements de pointe commandés. Bien que le phénomène soit mondial et concerne particulièrement notre sous-région, il ne peut en aucun cas être au-dessus de nos moyens et n'entamera en rien notre détermination à y faire face avec succès.
Au cours de la séance extraordinaire, le gouvernement a souligné que la zone dite point triple frontalière avec le Burkina Faso et le Niger est considérée depuis peu comme critique en raison des actions terroristes. Les autorités béninoises appellent à des actions concertée entre les 3 pays voisins pour combattre le fléau. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Au Niger, les consommateurs se plaignent ces dernières semaines de la cherté des produits de première nécessité. Les travailleurs mécontents de plusieurs secteurs haussent également le ton pour exiger de meilleures conditions de vie. Grogne sociale et cherté des produits, c'est le reportage que nous propose notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Selon le président de l'Association de défense des droits des consommateurs, il n'y a pratiquement pas un seul produit de première nécessité qui n'ait connu une hausse de son prix depuis le début de l'année. Maman Nouri.
Tous ont augmenté, sans exception. Même le prix de la salade a augmenté. Ça n'a pas de sens et pourtant nous sommes dans la saison des salades. La situation est alarmante. Avec En tout cas, cette question de, d'avoir des raretés de ressources, cette question de déficit céréalier qui a occasionné en tout cas les déplacements de beaucoup de populations en zone urbaine, cette question de mendicité qui a augmenté en crescendo, où tu vas trouver les enfants mendient, les femmes mendient, les adultes mendient, les handicapés mendient, tout le monde est presque devenu mendiant. Ça n'a pas de sens. Dans ce contexte-là, on ne peut pas créer les conditions d'un accroissement du prix des produits de première nécessité, mais on sait qui. Maintenant, ce qui est pire encore, c'est le prix du pain. Où le syndicat de façon unilatérale des boulangers, des patronats, des 10 patronats, hein, ils ont augmenté le prix de façon unilatérale en détail de 400 à 425.
L'explication de la hausse du prix de la baguette de pain est toute simple pourtant chez le syndicat des boulangers. Maman Hassan, secrétaire général de la structure.
Ce changement est dû à la chérité de la farine. Que vous n'êtes pas sans le savoir, la récolte du blé a été mauvaise sur le plan mondial. C'est pas seulement au Niger que la baguette a changé. C'est un peu partout. D'ailleurs, on va dire que c'est dans le monde entier. Donc, en novembre, nous achetons ici la farine à 340 000 francs, ici à Niamey. Aujourd'hui, nous sommes à 460 à 480 000 francs la tonne. Donc rien que sur un camion de 40 tonnes, il y a une différence de 5 600 000. Notez bien. Donc et pour remédier à tout cela, le bureau de patronat de boulangerie a entamé des démarches. Nous avons rencontré notre ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère du commerce. On les a rencontrés pour leur dire que voilà, la farine est en train de monter d'une manière drastique, d'une manière exponentielle, de trouver les voies et moyens pour que la baguette ne monte pas.
Le gouvernement n'a pas répondu à cette sollicitation des boulangers, tout comme à celle des enseignants, des conducteurs de taxi et d'une partie des agents de santé qui ont observé des mouvements de grève ces dernières semaines pour exiger de meilleurs traitements. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Sénégal, les parents d'élèves ont manifesté ce samedi à Dakar, à la place de la nation, pour que l'État et les syndicats d'enseignants réagissent à la léthargie qui frappe l'école sénégalaise. Depuis le début de l'année, les syndicats d'enseignants ne lèvent pas le pied et enchaînent les grèves. Une situation qui a fait réagir les parents d'élèves de Dakar, notre correspondant Seydina Abagueye.
La place de la Nation, qui accueille habituellement les manifestations des organisations politiques et celles des activistes, a été investie ce samedi par les parents d'élèves. Leur seul mot d'ordre est une reprise rapide des cours, comme l'indique l'un des initiateurs, connu sous le nom de président Sané.
Depuis le mois de novembre, l'école sénégalaise est aux arrêts à cause de la grève des syndicats d'enseignants. Et à cela s'ajoute une grève des élèves qui réclament une normalisation des cours, ce qui montre à quel point la situation est dramatique et alarmante. C'est pourquoi on a lancé un appel envers tous les parents d'élèves, car cette situation est à tous les niveaux de l'enseignement et si on ne règle pas ça tout de suite, ça risque de dégénérer et de mettre à terre l'enseignement au Sénégal.
La gravité de la situation a poussé certains parents d'élèves à venir de l'intérieur du pays pour participer à la manifestation. Omar John est venu de Kormoussé dans la région de Thiès. Pour lui, les 70 km qu'il a parcourus sont peu par rapport au risque que courent leurs enfants avec ces grèves sans fin.
Je viens de Kermoussa, village Bouniwa.
Quand j'ai entendu l'idée de la marche des parents d'élèves, je m'en suis réjoui parce qu'il était temps que les parents d'élèves s'élèvent et fassent entendre pour que nos enfants puissent gagner les salles de classe. Je ne suis pas là pour des syndicats ou pour l'État, mais plutôt pour qu'on trouve une solution qui va ramener nos enfants dans les salles de classe. et ne permettent de suivre normalement les cours. L'État doit prendre les choses en main car cette grève touche toutes les régions du Sénégal.
Toutes les régions du Sénégal le touchent.
De leur côté, les représentants de l'Union nationale des parents d'élèves du Sénégal dénoncent la mauvaise gestion des récentes marches pacifiques initiées par les élèves.
Nous sommes là pour dénoncer ces grèves de tout, mais aussi les tirs de grenades lacrymogènes à l'endroit des élèves qui ne sont que des enfants qui revendiquent leur incapacité à composer car n'ayant pas fait cours convenablement au défaut de cordon horaire causé par les grèves. Et malgré leurs revendications, on les a soumis à grenades lacrymogènes et a occasionné mort dans une situation qui pouvait être évitée car les enfants de 15 ans, 16 ans ou même moins, nous dénonçons cela fermement.
Depuis le début de l'année scolaire, l'école sénégalaise traverse une période trouble avec la grève des syndicats d'enseignants qui réclament le respect des différents protocoles d'accord signés par l'État du Sénégal. Plus de 3 mois de perturbations qui ont poussé les parents d'élèves à descendre dans la rue pour réclamer une résolution rapide de cette crise. C'est Dina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Tchad, le sélectionneur de l'équipe des SAO du Tchad a rendu publique la liste des joueurs présélectionnés pour préparer les tours préliminaires de la CAN 2023. Ces 30 joueurs vont se préparer pour la double confrontation avec les Scorpions de la Gambie, prévue dans la période du 21 au 29 mars 2022. Réaction des acteurs sportifs dans ce reportage d'André Kotmadjingar, notre correspondant à N'Djamena.
Ces joueurs présélectionnés ont déjà démarré leur épreuve de préparation et seront casernés dans un hôtel de la place vers la fin du mois de février. Et le mois de mars ne sera pas du tout repos. Ils auront 8 séances d'entraînement par semaine. Pour le sélectionneur du comité de normalisation du football tchadien, Mahamat Alamine Abakar, des matchs amicaux sont prévus du 8 au 16 mars prochain au Cameroun. Il explique au micro de VOA Afrique les critères de sélection.
Il a été question d'importer notre choix sur les joueurs internationaux locaux ayant disputé les derniers matchs du Tchad et aussi des SAO militaires ayant pris part au tournoi de la sous-région à Abuja. Nous avons aussi tenu compte des jeunes talentueux ayant participé avec l'équipe nationale U23. Dans un proche délai, nous allons boucler la liste avec des joueurs évoluant à l'étranger. Nous avons une base de données composée de plus d'une vingtaine de joueurs évoluant de par le monde.
Quelques anciens joueurs et entraîneurs de l'équipe nationale donnent leur avis.
Pour composer une équipe nationale, il faut qu'il y ait un championnat national ou bien un championnat des ligues, mais c'est basé uniquement en Djamena pour faire la liste. Je crois qu'à mon avis, ce n'est pas du tout normal.
Les impressions sont avec beaucoup de pessimisme, puisque l'équipe n'a pas été bien préparée. Mais comme l'entraîneur nous a lancé un défi, je pense que peut-être qu'il a des stratégies. On souhaite une bonne chance à l'équipe.
Ça serait un peu difficile parce que vraiment le Tchad ne s'en sortira pas.
Moi, personnellement, notre victoire ou bien notre match nul, je ne pense pas.
Pour Maître Hissène Garo, expert de la Confédération africaine d'athlétisme, il se pose un sérieux problème au niveau de l'encadrement technique.
Pour être sélectionné, il va falloir passer aussi par une formation. Est-ce que les entraîneurs qui sont là sont en même de former l'équipe technique? Parce que le football tchadien n'a pas évolué à l'extérieur, ça fait très longtemps. Et il n'y a que ces sélectionneurs qui ont participé à plusieurs compétitions et qui connaissent les stratégies des autres équipes qui sont en même de sélectionner une équipe nationale. Est-ce que ces conditions nous le remplissons? Je ne pense pas. C'est vrai, 30 athlètes qui ont été sélectionnés et on parle qu'il y aura encore une vingtaine qui vont venir s'ajouter. C'est bien, mais est-ce qu'ils ont des compétitions dans les jambes? Non.
Face à ces difficultés, Maître Hissène Garo souhaite que le Tchad gèle sa participation pour 2 ans pour mieux s'organiser. Ils connaissent bien la léthargie dans laquelle le football vit depuis bientôt 2 ans. Comment est-ce que ces gens vont tenir devant des équipes qui viennent à peine de finir une CAN? Il faut être logique. Et même ici, est-ce que d'ici le 20 mars, il pourrait y avoir une symbiose
dans le système de jeu de ces 30 personnes. Voilà pourquoi moi j'avais dit que le Tchad, en principe, devait s'abstenir d'aller pour la CAN 2023 et préparer la CAN 2025. Parce que quoi qu'on dise, le sport c'est une science.
La léthargie dans la gestion du football tchadien a amené la CAF et la FIFA à suspendre la Fédération tchadienne de football. Un comité de normalisation a été mis sur pied et a un mandat d'un an pour remettre les pendules à l'heure. André Kordoumadjingar, Ndiamena pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoulia et Jacques Aristide, à la mise en onde de Lionel Gaïma et à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.